Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de RFI, bon réveil sur la radio du monde, il est 5h30 ici à Paris, 3h30 en temps universel, nous sommes ensemble pour une demi-heure, bienvenue.
Grégoire Morelli.
En Afrique du Sud, mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'apartheid n'ont jamais été jugés. L'annonce a été faite par le président Ramaphosa, répondant ainsi à des demandes de familles de victimes. Émotion toujours vive au Kenya après l'assassinat du député Charles Were en pleine rue de Nairobi. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée et le mobile reste inconnu. Et puis la crise de l'eau au Soudan, dernier épisode de la série de reportages tournée à Khartoum par l'envoyé spécial de RFI, le manque d'accès à l'eau potable qui provoque une grave crise sanitaire dans la capitale soudanaise. Enfin, Kinshasa et Kigali doivent soumettre à Washington un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe. En amont de cet avant-projet, d'importants efforts diplomatiques avaient été déployés, vous l'entendrez. L'Afrique du Sud a décidé de faire face aux démons de son passé après la pression de familles de victimes. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine la mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'apartheid n'ont jamais été jugés. Car suite à la commission Vérité et Réconciliation, perçue comme un modèle à suivre il y a une trentaine d'années, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie n'ont jamais été inquiétés. Claire Bargelès nous explique les demandes de cette commission d'enquête.
Luca Nyokalata fait partie des proches de victimes qui ont lancé une procédure judiciaire pour réclamer des réponses de la part du gouvernement sud-africain. Son père, Fort Kalata, a été tué par la police de l'apartheid en 1985. Depuis, tous les suspects dans l'affaire sont décédés. Alors Luca Nyo espère comprendre pourquoi il n'y a jamais eu de procès.
C'est important pour nous qu'on nous dévoile qui sont ces personnes qui nous ont empêchés d'obtenir justice. Il faut que le pays sache qui est responsable. L'histoire doit être racontée dans son entièreté.
Suite à ces pressions, le président Cyril Ramaphosa aura finalement accepté la mise en place de cette commission d'enquête pour faire la lumière sur les soupçons d'interférence politique de la part des gouvernements ANC précédents. Cependant, le collectif de familles de victimes ne souhaite pas arrêter la procédure judiciaire, notamment pour obtenir des dommages et intérêts. Zaïd Kimi est le directeur de la Fondation pour les droits de l'homme qui soutient la démarche.
Nous attendons une action décisive sur ce point-là et c'est pour cela que nous allons continuer la procédure devant les tribunaux. Le président a déjà indiqué qu'il allait s'y opposer. Mais nous allons persévérer et demander à la Cour de prendre une décision.
Le collectif réclame près de 8 millions d'euros pour compenser ses droits constitutionnels bafoués et afin de financer de futurs procès ainsi que des événements commémoratifs. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Choc et indignation au Kenya après l'assassinat d'un député. Charles Were a été abattu mercredi soir en pleine rue à Nairobi. Il était membre du parti ODM de l'opposant Raila Odinga, qui a formé ces derniers mois une alliance avec le président Ruto. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée et le mobile reste inconnu. Si de nombreuses questions subsistent, les réactions pleuvent depuis ces dernières 24 heures. À Nairobi, la correspondance d'Alban Tiroir.
Un assassinat d'une barbarie choquante pour l'opposant historique Raila Odinga, une tristesse indicible pour le président de l'Assemblée nationale. Les responsables doivent rendre des comptes, a quant à lui affirmé le chef d'État kényan William Ruto. Ces dernières 24 heures, les messages de condoléances ont afflué au Kenya pour évoquer Charles Were. Le député a été assassiné aux alentours de 19h30, heure locale mercredi. Il était assis au siège passager de sa voiture, arrêté au feu rouge, lorsque deux hommes sur une moto sont arrivés. L'un s'est approché du véhicule, a tiré et ensuite pris la fuite. Selon la police, la nature du crime semble être à la fois ciblée et préméditée. On sait que Charles Were avait exprimé à plusieurs reprises craindre pour sa vie, dénonçant une intention de l'assassiner. D'après la presse kenyane, sa circonscription de Kasipul, dans l'ouest du Kenya, a vu une hausse des violences ces derniers mois sur fond de tensions politiques. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que l'enquête avançait. Il a appelé les agences en charge des investigations à travailler rapidement. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Au Soudan, les forces de soutien rapide ont bombardé hier le palais présidentiel dans le centre de Khartoum. La guerre qui continue et qui, je vous le disais, aggrave la crise de l'eau. Avant même le conflit, 11 millions de Soudanais n'avaient pas accès aux services d'eau de base, selon l'ONG Humanitarian Action. Le manque d'accès à l'eau potable et au système d'assainissement provoque une grave crise sanitaire. 11 États du pays sont touchés par une épidémie de choléra. C'est notamment le cas à Khartoum, la capitale. C'est un reportage rare de notre envoyé spécial Gaël Lalex.
Dans la banlieue ouest de Khartoum, l'armée et les forces de soutien rapide s'affrontent. Les habitants pris au piège n'ont plus d'électricité, de nourriture et surtout plus d'eau. Samira Idriss sort de chez elle pour en chercher.
On marche 10 à 12 kilomètres pour récupérer l'eau du puits de l'autre côté d'Omdurman. L'eau est un gros problème. Il y a beaucoup de monde, ça prend beaucoup de temps. On porte les bidons à bout de bras.
Ceux qui n'ont pas accès au puits récupèrent l'eau du Nil, comme Iman Abdallah, qui vient du quartier d'Al-Mourbat.
Avec mon petit frère, on ramène tous les jours 2 gros seaux et 3 petits. Ce n'est pas assez, mais on se débrouille. On s'en sert pour cuisiner, se laver et boire. L'eau est sale, elle nous rend malade, mais on n'a pas le choix.
Les eaux du fleuve sont souvent contaminées. Le Nil rejette parfois des corps de victimes des combats ou des violences des forces de soutien rapide. Mouahed Adam, 23 ans, témoigne.
Quand on allait chercher l'eau du Nil, les snipers des FSR nous tiraient dessus. Même si on était des civils, ils nous soupçonnaient d'appartenir à l'armée. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis heureux de nager librement dans le Nil.
Depuis le début de l'épidémie de choléra, en août 2024, les Nations Unies ont recensé plus de 55 000 cas et 1 200 morts. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Gaël Lalex, qui toute cette semaine a proposé une série de reportages exceptionnels tournés à Khartoum. Vous pouvez réécouter tous ces reportages sur le site de RFI. Concernant le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle étape est attendue ce vendredi à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre leur ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet avant-projet à Washington intervient après une série d'initiatives diplomatiques menées sur différents fronts, Patient Ligodi.
Il y a d'abord le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il a effectué une mission de 5 jours en Afrique des Grands Lacs. Il n'a pas visité Kigali, les relations entre la Belgique et le Rwanda étant actuellement rompues. Bruxelles affirme son soutien aux efforts en cours, tout en appelant à intégrer pleinement les dynamiques congolaises, notamment le dialogue national proposé par les églises. Autre déplacement cette semaine, celui de Tiffany Sadler, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la région. Elle dit vouloir renforcer l'appui britannique à cette dynamique avec un objectif, la stabilité et la prospérité. L'Union européenne s'est également manifestée. Son représentant spécial, Johan Borgstam, a conclu hier une visite à Kinshasa. Le diplomate insiste sur la nécessité de concrétiser les engagements annoncés en respectant les principes fixés par le Conseil de sécurité de l'ONU, dont celui de la souveraineté de la RDC. Enfin, à Doha, les représentants des 6 pays, la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, ont tenu une réunion de suivi. Et depuis Washington, Donald Trump, interrogé sur ces dossiers le week-end dernier, s'est voulu optimiste. Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. Fin de citation.
Patient Ligodi, la République démocratique du Congo, où une quarantaine de chercheurs, militants, universitaires et figures de la société civile tirent la sonnette d'alarme dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi et signée notamment par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Ils dénoncent un processus de négociation opaque, dominé selon eux par des logiques extérieures. Ils veulent surtout mettre en garde contre tout bradage des ressources congolaises. Du côté de l'opposition, on appelle à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'est du pays. Les principaux opposants au régime du président Félix Tshisekedi, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délie Sessanga ainsi que l'ancien président Joseph Kabila, ont publié hier pour la première fois dans une déclaration commune un message dans lequel ils estiment que les négociations ne constituent pas une base suffisante pour une solution définitive et durable. Et puis, nous évoquions Joseph Kabila. Les proches de l'ancien président dénoncent un acharnement après que la justice du pays a saisi officiellement le Sénat pour demander la levée de son immunité. Joseph Kabila, entre autres accusé de crimes contre l'humanité et de participation à un mouvement insurrectionnel. On y revient lors de nos prochaines éditions. À l'occasion de la fête du travail hier, entre 2000 et 3000 Tunisiens ont manifesté à Tunis, un premier rassemblement à l'appel de la centrale syndicale UGTT auquel s'est joint un cortège mêlant différentes tendances politiques pour réclamer notamment la libération des opposants emprisonnés. Reportage de Lilia Blaise.
Des manifestants réclamant la libération de l'avocat Ahmed Souheb, emprisonné depuis le 21 avril sous le coup de la loi antiterroriste, et des soutiens à l'opposante politique Habir Moussi, en prison depuis un an et demi, manifestent côte à côte. Ils répondent à un besoin commun de s'unir, selon Afifa Majoul, sympathisante d'Habir Moussi.
On est venu à la manifestation pour être avec tout le monde, pas avec Sweb seulement ou bien avec Abir seulement.
Avec d'autres factions politiques, ils ont rejoint le rassemblement de la centrale syndicale ce 1er mai. De nombreux jeunes de la société civile sont aussi présents, comme Siwar Gmati, 27 ans.
C'est un peu une opportunité pour la famille démocratique en Tunisie pour travailler ensemble, pour relancer un débat sur une alternative politique.
Dans son discours pour le 1er mai, le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, exprime son soutien aux prisonniers politiques, mais ses mots sont davantage axés sur les problèmes économiques du pays. Un diagnostic que partage Wissem Zraier, membre du parti d'opposition Al-Jumouri.
Les indicateurs sont au plus bas avec une baisse énorme du pouvoir d'achat, une croissance faible, idem pour le développement.
Des mots qui font écho au souhait de la centrale syndicale, qui réclame une réouverture des négociations sociales, et une revalorisation des salaires dans le privé et le public. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Du sport avec du vélo, le Tour du Bénin. Quatrième étape disputée ce jeudi entre Bohicon et Atiémé. 111 km et un sprint massif à l'arrivée, dominé par le Néerlandais Tom Wefjes devant le Sud-Africain Reinhard Jans van Rensburg et le Marocain Ibrahim Essebaï. Au classement général, Van Rensburg est toujours maillot jaune devant Essebaï. Cette étape arrivait donc à Atiémé, à la frontière avec le Togo, l'occasion pour Olivier Pron d'aller à la rencontre des éperviers à vélo.
Pas vraiment le cœur à ambiancer, le Togo à quelques kilomètres de chez lui. Dernière équipe classée, les éperviers qui ne sont plus que 4 sur 6 au départ, en bave sur les routes du voisin béninois. C'est l'expérience, nous dit leur directeur sportif Emilien Ouetto.
Nous avons une très jeune équipe actuellement qui a besoin d'acquérir beaucoup plus d'expérience. On va sur pas mal de tours avec l'appui de notre ministère pour acquérir un peu plus d'expérience pour parvenir à notre tour qui démarre dans 2 semaines apparemment.
Apparemment, oui, le 15 mai. Et il y a encore du travail pour des coureurs relégués dans les profondeurs du classement, mais très optimiste, Blaise Kofi Dotse, dernier.
Vraiment, c'est dur.
C'est-à-dire, pourquoi c'est dur?
Premièrement, ce sont les moyens et les matériels. Et le nouveau président promet que ça va venir. Dans peu de temps, tout va s'améliorer. Il faut travailler et puis ça va aller. Dans peu de temps, le Togo va dépasser le Bénin.
On en est loin, mais pourquoi pas? Nulaleng Choualem garde la foi.
C'est un métier difficile. Tu es seul sur ton vélo. Tu es obligé de se démerder jusqu'à venir à l'arrivée. Donc, il y a l'esprit de combativité là, donc c'est un bon métier. Oui.
Un beau métier et des dirigeants pour rêver.
Si l'occasion permet, on va chiper une étape. Hein.
Méthode couée ou optimisme démesuré, les Togolais donnent rendez-vous dans 15 jours sur leur tour. Apparemment, Olivier Pron-Bohicon, RFI.
Et toute l'actualité sportive, ce sera d'ici une heure dans le Journal des Sports avec Antoine Grenier. Et après, le sport, la musique, avec la sortie du 3e album du groupe helvétique Sirens of Lesbos, les sœurs Serac d'origine soudano-érythréenne. Ils mélangent leur inspiration soul, indie, pop et électro. L'album s'appelle en français I Got Song Is Gonna Make Us Million, et en français ça donne J'ai une chanson, elle va nous rapporter des millions. Olivier Roger l'a écouté et on va voir s'il est devenu millionnaire.
Les sœurs Serag, Jasmine et Nabila, l'ont échappé belle, non pas en raison d'une histoire familiale tourmentée entre le Soudan et l'Érythrée, d'où sont originaires leurs parents, mais parce qu'elles ont failli succomber aux injonctions mercantiles de l'industrie musicale. Il y a 10 ans, Sirens of Lesbos s'est rendu célèbre en produisant un hit de house music tout juste bon à distraire les fêtards. Recette gagnante d'un point de vue financier, perdante sur le plan artistique. Avec les 3 autres membres du groupe, elles ont rapidement choisi d'aller nager vers d'autres eaux plus poétiques. Cette évolution-révolution a engendré 3 albums, dont ce petit dernier au titre ironique. J'ai une chanson, elle va nous rapporter des millions. Entre dub éthéré, synth-pop, glamour, électro-expérimental, Sirens of Lesbos propose un voyage musical jalonné de collages sonores surprenants et de mélopées soudanaises. Sur les rives de l'Ar qui traverse Berne, leur ville natale, les sœurs ont aussi puisé aux sources de l'afrobeats en invitant sur le titre Call Me Back les chanteuses nigérianes du Kabuza Oriental Choir, une façon de montrer que l'horizon alpin ne limite pas leur hauteur de vue.
Olivier Roger et les sœurs Serag pour cette fin de journal. Restez avec nous, hein, l'information continue sur la Radio du Monde.
Afrique Matin sur RFI. Grégoire Morelli.
Et à suivre durant les 15 prochaines minutes, L'Or Blanc, l'association des producteurs de coton africain, a fêté ses 20 ans lors de son assemblée générale il y a deux jours. L'occasion de dresser un état des lieux de la filière et de prévoir une feuille de route pour la prochaine décennie. Et après le coton, le cuivre. La Chine craint d'en manquer pour assurer son approvisionnement. Pékin est prêt à payer plus cher, le tout sur fond de concurrence américaine. Il a grandi en Centrafrique, traversé les guerres et choisi de répondre par la créativité. Teddy Kosoko, 30 ans, utilise les jeux vidéo pour raconter l'Afrique autrement. Mais créer ne suffit plus. L'entrepreneur installé à Toulouse, poursuit désormais un objectif plus vaste, bâtir un marché du jeu vidéo africain. Pour lui, il faut aussi pouvoir vendre localement. Portrait d'un entrepreneur engagé avec Christina Okello.
La mission de Teddy Kosoko, reconnecter les Africains à leur histoire. Une ambition qui le pousse à créer Massacre Game Studio en 2018.
Alors déjà, Masika dans ma langue natale, Sango, ça veut dire jeune, jeunesse. Et pour moi, Masika, c'est le moyen pour moi de raconter l'Afrique. Raconter l'Afrique d'abord aux Africains, parce que la plupart des Africains ne connaissent pas le continent africain. Et ensuite, raconter l'Afrique au reste du monde, pour que les gens puissent connaître l'Afrique au-delà de la colonisation et de l'esclavage, qui colle aujourd'hui à la peau des Africains. On n'est pas que cela.
Ces jeux s'inspirent des cultures africaines. Kisoro, par exemple, révisite l'Awale, ce jeu de stratégie traditionnelle, pour en faire un outil de paix.
C'est un jeu avec des pions et des cases. À l'époque, le jeu Kisoro pour promouvoir la paix et raconter une histoire où deux royaumes vont utiliser le Kisoro comme un outil de paix pour résoudre un conflit millénaire.
La Centrafrique, à l'époque, est en guerre. Et Teddy Kosoko choisit la créativité comme arme politique. Le succès est au rendez-vous. Plus de 50 000 téléchargements. Puis vient la légende de Moulou, un jeu d'aventure pédagogique. Mais un problème persiste. Ces jeux se vendent partout, sauf en Afrique. Car les grandes plateformes comme Google Play imposent des cartes bancaires et empêchent les créateurs africains de vendre localement. Pour contourner ces blocages, Teddy Kosoko lance Gara, une boutique en ligne pensée pour l'Afrique. Elle centralise les contenus et utilise le mobile money pour simplifier l'achat.
J'ai 100 francs CFA. Tout le monde a 100 francs CFA. Et je mets mes 100 francs CFA, je paye et j'ai accès à tous les contenus que je veux. Et grâce à mes 100 francs CFA, je vais aider les créateurs africains à générer de l'argent et à vivre de leur création.
Mais pour Teddy Kosoko, l'enjeu dépasse l'économie.
J'ai vécu deux guerres la première guerre que j'ai vécue, j'ai vu des enfants soldats venir chez nous et tout casser. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ils sont devenus des enfants soldats. Quand tu travailles, quand tu as un emploi, tu vas pas prendre les armes, c'est rare. Il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de chaînes de valeur pour que les jeunes eux-mêmes génèrent des revenus et vivent de ça.
Derrière ces jeux, Teddy Kosoko défend un combat, bâtir une industrie capable de créer des emplois. Car stabiliser les sociétés passe aussi par là.
Christina Okello, c'est un reportage que vous pouvez réécouter sur notre site rfi.fr. Et un coup d'œil à l'actualité internationale de ce vendredi 2 mai. Plus de 100 personnes tuées en moins de 3 jours dans des affrontements entre forces pro-gouvernementales et miliciens druzes en Syrie. Hier, le plus influent chef religieux druze du pays a pointé du doigt le pouvoir d'Ahmad al-Shara. Il dénonce une campagne génocidaire contre sa communauté. Et Israël s'en mêle et mène des frappes. Cette nuit, l'armée a annoncé avoir bombardé le quartier du palais présidentiel de Damas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à protéger les membres de la communauté druze. Washington, de son côté, condamne fermement les violences contre la communauté. Donald Trump débarque son conseiller à la sécurité nationale. Le président américain compte faire de Mike Waltz son ambassadeur auprès des Nations Unies. Il était sous pression depuis quelques semaines après la mise au jour d'une faille de sécurité majeure en révélant qu'il avait ajouté par mégarde Mike Waltz à un groupe de discussion à propos de frappes américaines imminentes contre les rebelles houthis du Yémen. Au lendemain de l'accord sur les exploitations minières signé entre les États-Unis et l'Ukraine, Volodymyr Zelensky salue une entente véritablement équitable. Un texte qui prévoit de donner un accès aux entreprises américaines à l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz en Ukraine, ainsi que la création d'un fonds d'investissement commun entre les deux pays. Et voilà, 2 mois jour pour jour que l'aide humanitaire n'est plus achevée dans la bande de Gaza. Israël bloque toujours l'accès à l'enclave palestinienne, privée de nourriture, de médicaments ou encore de carburant pour faire tourner les générateurs électriques essentiels pour le fonctionnement des hôpitaux. L'association des producteurs de coton africain, l'APROCA, a célébré ses 20 ans d'existence les 28 et 29 avril lors de son assemblée générale à Garoua, le bassin cotonnier du pays dans le nord du Cameroun. Présente dans 15 pays du continent, l'APROCA est devenue un acteur incontournable de la filière en défendant les intérêts de plus de 2 millions de producteurs de coton répartis dans plus de 31 000 coopératives. Lors de l'Assemblée Générale, quelques 300 participants de 8 pays étaient réunis pour 2 jours d'échanges intenses à Garoua. Donc, objectif dresser l'état des lieux de 2 décennies de travail et surtout débattre de la feuille de route de l'APROCA pour les 10 prochaines années. Reportage de Charlotte Cosset.
Dans 10 ans, qu'est-ce que nous on veut ?
Premier grand objectif, une meilleure professionnalisation des cotonculteurs pour tirer le meilleur parti de leur activité. Pour cela, l'APROCA aimerait notamment voir renaître son université coton. Le président de la Fédération des producteurs du Togo, Koussoué Kouroufé, également président de l'APROCA.
Que ça soit l'affaire régionale pour qu'on mette en place l'université coton qui soit appuyée par les États, nos partenaires, l'UMOA et autres, pour que vraiment les enjeux ou bien les problèmes du coton soient traités là-bas. L'objectif, c'est ça, c'est pour former les chercheurs, les agronomes, les entomologistes, tout ce qui est du coton. Cette université coton, elle doit être la bienvenue vraiment pour réfléchir à long terme sur la production du coton.
Autre grand défi, l'adaptation des cotonculteurs au changement climatique. Pluie torrentielle, sécheresse prolongée, érosion des sols ou encore ensablement affectent les rendements. Face à cela, l'APROCA cherche des solutions et entend convaincre les autorités à suivre leur dynamique. Koussoué Kouroufé.
Au moins, même si on a le changement climatique, qu'on s'adapte à ça avec les chercheurs pour trouver les variétés qui sont résistantes au changement climatique, qui est un bon rendement. Aussi, pourquoi pas aller vers l'irrigation à contre-saison. Et c'est notre idée. Nous allons faire des plaidoyers auprès des gouvernements.
Autre priorité, mieux rémunérer et mieux protéger les cotonculteurs. Youssouf Djimé Sidibé, le secrétaire permanent de l'APROCA.
De plus en plus, nos partenaires techniques disent qu'il y a de l'argent de coton. Effectivement, il y a de l'argent. Mais les recettes de coton ne sont pas contrôlées par les producteurs. Vous savez, la filière coton, c'est une filière où il y a beaucoup d'acteurs. Et parmi l'ensemble des acteurs, c'est le producteur qui prend le plus grand risque. Mais c'est l'acteur le moins assuré et le moins payé également. Donc, à cela n'en tienne, nous nous battons pour pouvoir exister et pour pouvoir atteindre aussi nos objectifs, qui est de permettre aux producteurs de vivre décemment de sa production.
Parmi les objets de bataille à venir de l'APROCA, la mise en place d'une assurance climatique agricole pour les producteurs de coton. Charlotte Cosset, Garoua, RFI. C'est ça.
La Chine pourrait-elle manquer de cuivre ? C'est en tout cas ce que certains acheteurs craignent. Ils se démènent donc pour sécuriser leur approvisionnement. Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour.
Pour s'assurer d'avoir du cuivre, les importateurs chinois sont donc prêts à payer plus cher.
Oui, et c'est un indicateur qui le montre. On parle précisément d'une prime qui est payée par les acheteurs en plus du prix fixé par les cours mondiaux. Et cette prime, elle est passée de $35 la tonne en février à $94 cette semaine dans un des ports chinois d'importation du métal rouge. Les acheteurs du pays n'ont pas payé autant depuis fin 2023. Et bien évidemment, s'ils le font, c'est que le marché est tendu. Une tension alimentée par le niveau des stocks des entrepôts chinois qui ont vécu une de leurs plus fortes baisses hebdomadaires. Mercuria, un négociant en métaux, est même allé jusqu'à dire qu'il pourrait s'épuiser d'ici mi-juin.
Si les Chinois se démènent pour importer du cuivre, c'est que les Américains sont devenus des concurrents inattendus ces derniers mois sur le marché, Marie-Pierre.
Effectivement, les acheteurs américains, mais aussi les traders, ont acheté beaucoup plus de cuivre qu'en temps normal par peur d'éventuels droits de douane. On peut parler d'achat d'anticipation. Sur la place boursière de New York, le cuivre s'est négocié ces dernières semaines jusqu'à $1,600 par tonne de plus que le métal qui était vendu à la bourse de Londres. Et cela a logiquement attiré ceux qui avaient du cuivre à vendre. Le niveau des stocks dans les entrepôts de la bourse américaine a atteint son plus haut niveau depuis 2018. Et c'est ce flux inhabituel de cuivre vers les États-Unis qui a commencé à inquiéter la Chine.
Car la Chine, c'est un gros consommateur de cuivre.
Oui, toujours, le pays est un des gros acheteurs dans le monde, acheteur de cuivre, mais aussi de ferraille de cuivre, qui pourrait, elle aussi, un jour ou l'autre, faire l'objet de taxes de la part des États-Unis. En 2024, les Chinois ont absorbé la moitié de la ferraille que les États-Unis ont exportée. Ils sont donc sur le qui-vive. Les fêtes du 1er mai et les 5 jours de pause qui vont avec en Chine devraient cependant ralentir l'agitation ambiante autour du métal rouge, d'autant que les indicateurs économiques ne sont pas fabuleux dans le pays. La demande en cuivre pourrait ne pas être si forte que ça, finalement. De quoi détendre les esprits, si cela se confirme, et mettre fin à la course aux primes chez les grands acheteurs.
Marie-Pierre Olfan pour toutes ces précisions. Direction l'océan Indien, avec nos confrères d'Outre-mer La Première. À La Réunion, les plus de 65 ans présentant des comorbidités ne pourront plus se faire vacciner contre le chikungunya. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. La décision a été officiellement confirmée ce mercredi par le ministre de la Santé suite au décès suspect d'un homme de 85 ans. Toute prise de médicaments comporte des risques, comme le rappelle la formule rituelle des publicités à la télévision. Mais pas question pour autant, semble-t-il, d'arrêter à La Réunion la campagne contre le chic. Priscilla Etève.
Par principe de précaution, Claude Maraudon avait décidé de mettre totalement en pause la vaccination contre le chikungunya depuis lundi. Suite aux dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, ce docteur en pharmacie et président de l'Ordre des pharmaciens Réunion Mayotte la reprend sous certaines conditions.
Si les personnes qui veulent se faire vacciner, âgées de 18 à 64 ans et qui sont atteintes de comorbidités, c'est-à-dire de maladies qui sont longue durée, doivent consulter leur médecin et avec leur médecin, ils prendront la décision de se faire vacciner ou pas.
Pour les plus de 65 ans présentant des pathologies graves et vaccinés la semaine dernière, les professionnels de santé se sont assurés de leur état.
Les pharmaciens en particulier ont appelé les patients pour savoir comment ils allaient. Pour le moment, les remontées sont assez intéressantes et positives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves.
Face à la défiance de la population, médecins et pharmaciens lancent aussi une campagne d'information pour recibler l'intérêt de la vaccination. Selon Dr Claude Maraudon, elle reste l'une des principales armes dans la lutte contre cette épidémie.
Mayotte, mal et même très mal classée dans le palmarès, si l'on ose dire, des départements touchés par des atteintes à la probité, corruption, trafic d'influence et autres détournements de fonds. Avec plus de 4 infractions pour 100 000 habitants, le département 101 figure même en tête de ce triste classement avec la Guadeloupe et les deux départements corses. Raphaël Kahn.
Ces infractions ont concerné plusieurs élus maorais ces dernières années. 5 ont perdu leur mandat après une décision de justice et d'autres affaires devraient arriver selon l'association Anticor. Son référent à La Réunion a expliqué à nos confrères du quotidien que les agents et élus condamnés chez nos voisins se refont une santé dans les collectivités mahoraises. La corruption, c'est structurel à Mayotte selon l'association, avec un risque de détournement accru au vu des sommes importantes versées au territoire depuis le passage du cyclone Chido.
Retour à La Réunion, une année 2024 sans relief. C'est le constat dressé par l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans son dernier rapport sur l'activité économique du département 97.4. À noter également une explosion, plus 30% du nombre de dossiers de surendettement. Nicolas Gobalraja est le responsable des études et des établissements de crédit à l'IEDOM. Il est au micro d'Antoine Garnier.
Nous le mesure à l'aide de notre thermomètre maison, c'est-à-dire l'indicateur du climat des affaires, l'enquête qu'on fait auprès des chefs d'entreprise. Et cet indicateur du climat des affaires, il a perdu 10 points entre 2023 et 2024. Il y a un deuxième indicateur qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires des entreprises que l'on interroge. Ce chiffre d'affaires, il a fortement ralenti. Il est de plus 1% en 2024, alors qu'il était à plus 5% en 2023. Donc clairement, il y a un affaiblissement de l'activité en 2024. Les bonnes nouvelles, si on peut s'exprimer ainsi, c'est quand même l'inflation a reflué sous la barre des 2%. C'est un espoir pour les ménages que leur salaire évolue désormais au-dessus de l'inflation. Et nous, on espère que ça déclenchera un comportement d'achat chez les consommateurs, que ça va redynamiser l'économie.
Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Et bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. Voilà, cette demi-heure d'information touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous à la réalisation ce matin. C'était Laurent Hérault à la rédaction en chef, Nemo Ampis et Sébastien Duhamel. Merci à eux. La prochaine édition africaine, ce sera à 6h30, heure de Paris, avec Arthur Ponchelet. Mais tout de suite, dans moins d'une minute, un prochain journal avec Gaëtan Plenet. On parlera entre autres de l'accord signé entre Kiev et Washington qui prévoit notamment une exploitation américaine des ressources minières ukrainiennes. Mais d'ici là, vous le savez, vous pouvez retrouver l'information en tout temps, en tout lieu, sur notre site rfi.fr. D'ici là, bonne écoute.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on se demande où vont les larmes qui ne coulent pas. On se projette dans des mondes virtuels où la vie est éternelle et on fait le point sur l'augmentation bien réelle des places de concert. Et tout ça en musique, bien sûr.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.